Je suis ici, arbitrairement destiné à inaugurer.
Vous n'avez pas le droit d'entrer ici. C'est interdit par la loi.
Un langage trop difficile et trop facile.
On se croit dans une caravane.
Vous devrez accoutumer vos oreilles.
Ça commence fort ce soir dans le rendez-vous. En direct sur France Culture, il sera question d'Oedipe, d'adultère, de mensonge, de mystère, de libido féminine, de libido masculine et même de Patty Pravo. Avec Clotilde Courau à l'affiche de L'ombre des femmes, le film de Philippe Garrel, portrait d'une actrice en documentariste, sublimée par le noir et blanc d'un cinéaste hanté par les codes de la nouvelle vague, Benoît Lagan.
Nouvelle étape pour une comédienne qui ne cesse de faire bouger les lignes, de Doyon à Garrel au cinéma et sur scène en passant par Jérôme Savary, le chanteur de Mexico, le Crazy ou encore l'intimité d'Edith Piaf.
19h30, le questionnaire autoportrait du lundi de Manu Farine, ce soir dans la série Nouvelle Génération Politique. Ce sera le jeune maire UMP Grégoire de Lastéry. Et puis 19h35, plateau Oedipe mais inversé, avec Stanislas Nordet qui met en scène et joue A Fabulazione, la pièce de Pier Paolo Pasolini, retour sur le parcours d'un homme de théâtre en âge d'incarner enfin la figure du père, Émilie Chaudet.
Des bêtes de style à La Fabulazione, le comédien et metteur en scène redéfinit à chaque exploration pasolinienne le pouvoir des folies théâtrales.
Mais d'abord, c'est l'actualité culturelle. Le journal de la culture, c'est le grand retour de Zoé Sfez, qu'on ouvre d'abord sur le son du jour.
Merci à ce jury. Vous me faites un cadeau surréaliste ce soir. Je réalise juste que parfois, la vie peut être aller au-delà des rêves.
William Faulkner disait « Faites des rêves immenses pour ne pas les perdre de vue en les poursuivant. »
Ce soir, ma vie va au-delà de tous mes rêves.
C'est la première fois que je reçois un prix dans ma vie.
Merci.
Bonsoir Zoé Sfez.
Bonsoir Laurent, bonsoir à tous.
C'est votre son du jour, enfin une date d'hier.
Oui, c'est mon son d'hier soir, c'est un son de rêve, c'est un montage de notre réalisateur Thomas Beau, merci, des deux discours donc de Vincent Lindon et d'Emmanuel Berco, respectivement prix d'interprétation masculine et féminine au Festival de Cannes hier soir. Un palmarès de ce festival dont le jury était présenté par les frères Cohen, je le rappelle, a fait la part belle aux Français, puisqu'en sus de ces deux prix, la palme, bien sûr, est revenue à Jacques Audiard pour son film Dipam, qui suit le parcours d'une fausse famille d'immigrés tamouls en France. Donc le palmarès consacre à la fois une certaine idée du cinéma français et salue une génération qui travaille particulièrement sur la question de la société. Palmarès qui a suscité de nombreuses réactions aussi dans la presse internationale. Ce matin, le Sri Lanka salue cette palme qui évoque une famille qui est ressortissante du Sri Lanka. L'Italie, en revanche, l'a plutôt mauvaise puisque les deux représentants, l'Italie, Nanni Moretti avec Mia Madre et Paolo Sorrentino avec Youth, sont repartis bredouilles de ce festival. Cannes, la grande amertume. Cannes déçoit l'Italie alors que la France rafle tout. Ont titré La Stampa et La Repubblica aujourd'hui.
Et tout de suite, on passe au dossier du jour consacré à la ville de Palmyre en Syrie. Elle est tombée jeudi dernier entre les mains de l'État islamique, comme le redoutaient les archéologues et les historiens. Car si Palmyre est une ville stratégique dans les combats entre l'armée de Bachar al-Assad et les rebelles djihadistes, c'est aussi un des sites romains les mieux conservés au monde.
Oui, Adrien Ezeli avait consacré un dossier à cette ville de Palmyre juste avant que l'État islamique ne s'en empare. Une ville caravanière, berceau de la civilisation arabe et place forte de l'Empire romain sur la route du désert. C'était un des joyaux de la Syrie, le site certainement le plus visité de la région. Son essor et son rayonnement sous l'Empire romain, puis sous le règne de la légendaire reine Zénobie, ont permis un développement architectural extraordinaire. Finalement, son déclin progressif l'a plutôt protégé. Le site était très peu fouillé, il recèle encore de nombreux trésors, d'où l'inquiétude des historiens après le sort notamment réservé à la ville d'Atra, on s'en souvient, il y a quelques mois détruite par l'État islamique. Françoise Briquel-Chatonnet est directrice de recherche au CNRS, spécialiste des mondes sémitiques. Elle se dit inquiète, mais ce n'est pas vraiment les destructions qu'elle redoute le plus. Écoutez-la.
Le pillage. C'est clair que, comme cela a été beaucoup dit, il y a des destructions qui sont très médiatisées, mais que l'essentiel, c'est un pillage absolu, et donc toute la perte de connaissances que représente la dispersion du patrimoine, des fouilles faites sans enregistrement et sans méthode. Et puis, effectivement, si on veut détruire un peuple, on essaye de détruire son passé. Et là, clairement, c'est quelque chose dans lequel tous les Syriens se reconnaissaient, quelle que soit leur confession, dont tous les Syriens étaient fiers. Il s'agit clairement de, en pillant, en détruisant, de détruire cela aussi.
L'UNESCO, par la voix de sa directrice Irina Bokova tente d'alerter la communauté internationale pour sauver ce patrimoine.
Et oui, elle le fait depuis le début de la progression de l'État islamique. Il y a eu une première conférence à Paris en décembre dernier consacrée justement à la question du patrimoine. Et là, elle en a monté une deuxième au Caire qui a eu lieu le 13 mai. Cette fois, c'est à l'initiative de l'Égypte. Et il s'agit de fédérer les pays arabes autour de ces questions du patrimoine. L'Égypte qui entend jouer un rôle important face à l'État islamique, d'autant qu'elle-même, elle a connu depuis la révolution un gros problème de trafic d'œuvres d'art illicites. Et donc, elle est plutôt mobilisée sur la question, comme l'explique le conseiller au patrimoine et à la culture du Premier ministre égyptien, Fethi Saleh.
C'est un de nos problèmes aussi qu'il y a une action de terrorisme contre les biens culturels en Égypte même. Nous savons maintenant que ça peut servir à monter le terrorisme parce qu'ils vendent les biens culturels ailleurs pour enrichir le terrorisme aussi. Alors l'Égypte est très intéressée et très engagée à prendre des actions contre l'illicite de biens culturels parce qu'on sait bien, première chose, qu'on va perdre le patrimoine, les choses patrimoniales, et aussi qu'on sait bien que c'est maintenant utilisé pour monter des actions terroristes.
La question reste de savoir quelles actions concrètes peuvent être engagées.
C'est toute la question depuis des mois, parce qu'on a beau condamner, il ne se passe pas grand-chose. La coalition internationale, et notamment les États-Unis en tête, ont répété qu'ils s'en tiendraient uniquement à ce qu'ils font aujourd'hui, c'est-à-dire des frappes aériennes. Mais l'Égypte, qui doit elle aussi faire face à plusieurs groupes dans le désert du Sinaï, qui ont prêté allégeance à l'État islamique, pourrait intervenir. C'est un petit peu le but de ce type de conférence. Elle l'a fait récemment au Yémen. Et là, la prise de Palmyre pourrait être un tournant décisif. C'est ce que nous dit en tout cas à demi-mot Fethi Saleh, qui est conseiller à la culture et au patrimoine du Premier ministre.
L'Égypte ne peut pas faire seule, mais il peut faire quelque chose avec la solidarité des autres pays arabes et même des autres pays européens. Parce que ce sujet, il s'intéresse à tout le monde. Ce n'est pas seulement un sujet arabe ou un sujet égyptien. C'est pour ça que maintenant, il y a une coalition entre l'Égypte et quelques pays arabes pour essayer de défendre ça. Je ne peux pas dire moi-même, c'est-à-dire que je ne suis plus responsable de dire ça. Mais je crois que si les choses arrivent à certains niveaux, comme c'est arrivé à Yémen, il y avait une action militaire. Alors peut-être que ça va monter jusqu'à ce niveau et qu'il y aura une action militaire aussi.
Mais pas sûr pour autant qu'une action militaire soit la panacée, puisque l'aviation de Bachar al-Assad bombarde, on l'a entendu depuis hier, la ville moderne de Palmyre, mais elle n'est qu'à quelques mètres du site. Et là encore, les archéologues et les historiens sont extrêmement inquiets. Françoise Briquet-Chatonnet.
Honnêtement, je ne sais pas quelle est la bonne solution. Je n'ai pas eu d'information directe, donc je ne sais pas ce qui est frappé. Il est certain que partout dans le monde, dès qu'il y a des bombardements, le patrimoine archéologique, on souffre beaucoup. Donc, faut-il essayer de le reprendre à l'État islamique ? On finit par ne plus savoir, maintenant que c'est pris, ce qu'il faut faire.
Voilà, alors pas encore de dégâts recensés ou annoncés, mais effectivement, les informations sont extrêmement difficiles à trouver. Dans les jours à venir, nous tenterons d'établir un bilan de ce qui se passe à Palmyre.
On continue avec les brèves, Zoé.
Et l'on ouvre avec le bilan extrêmement positif du festival Étonnant Voyageurs qui fêtait cette année ses 25 ans. Alors on n'a pas encore de chiffres, mais le festival revendique une affluence record avec en 3 jours plus de 300 débats, la présence de 250 auteurs et de plus de 5000 étudiants. 7 prix ont également été remis comme à chaque festival et le plus important, le prix Littérature Monde est revenu à 2 personnes, Simone Schwartz-Barthes pour L'Ancêtre en solitude paru au Seuil et Philippe Meyer, le fils, paru chez Albin Michel.
Thierry Tullier quitte France 2 pour Canal+.
Le chef de l'info et des programmes de France 2 quitte ses fonctions. Annonce pas si surprenante puisque la nouvelle directrice Delphine Ernotte, nommée par le CSA, auditionnait déjà ses potentiels successeurs. Il prend donc la tête de la direction des sports de Canal+, en remplacement de Cyril Linette, mais supervisera aussi les programmes. Donc ça ira du Grand Journal au Bifor, en passant par le Tube.
La Cour de cassation donne plutôt raison à l'artiste Peter Clazen.
Je vous fais des pièges, mon cher Laurent. Et oui, c'est une décision qui a été rendue le 15 mai 2015, mais qu'on a appris aujourd'hui. La Cour de cassation a cassé et annulé au visa de l'article 10 de la CEDH, la condamnation de cet artiste pour contrefaçon des œuvres d'un photographe. Il avait utilisé des photographies comme matériaux pour ses propres créations. Deux notions donc étaient en débat, la liberté d'expression d'un côté et le droit à la propriété intellectuelle de l'autre.
Et la dernière.
C'est une petite histoire mignonne pour mon retour de Chine, de mégalomanie et de fan de séries télé. C'est un hommage à Benoît Lagan qui est
pourquoi
ici
pour
présent.
La Chine, la mégalomanie pour
les la Chine, mais bon, en général, Chine, mégalomanie, ça va ensemble. Alors, vous savez que la Chine est.
J'espère qu'ils vous feront un procès pour ça.
Mais non, prolixe en milliardaire. Il y a un jeune milliardaire qui s'appelle Liu Dejian qui a fait fortune en se lançant dans les applications mobiles. Il a une société qu'il a rendue milliardaire, qu'il a baptisée NetDragon Websoft et dont il voulait ériger le siège flambant neuf à Pékin. Alors déjà, le nom de la société nous indique qu'il a quand même un certain goût pour la SF, ce qu'on appelle la science-fiction donc. Et oui, car cet homme, en sus d'être fan de plein de choses, y compris de Game of Thrones, est surtout un inconditionnel de Star Trek, une série que peut-être vous connaissez bien, puisque elle existe depuis assez longtemps. Et donc,
c'est toujours
que
aimable.
S'est-il passé ? C'était pour vous, monsieur.
Bah, je m'en doute.
Alors,
depuis 67.
Depuis 67, alors nous avons justement, vous allez m'indiquer, puisque je suis assez nulle là-dedans. Alors, cet homme-là s'est déguisé plusieurs fois, il est apparu sur plusieurs fêtes déguisé avec les oreilles pointues de Spock, mais ça ne va pas jusque-là, ce serait trop simple. Il a reproduit le mythique vaisseau spatial USS Enterprise dans son nouveau siège. C'est-à-dire que son siège, c'est le vaisseau. C'est un énorme vaisseau qui a coûté des milliards de dollars. Il l'a baptisé Enterprise et donc c'est une copie fidèle de l'engin intergalactique. Alors je ne sais pas si vous l'avez en tête, moi pas du tout. Pour s'aventurer, et c'est écrit en chinois, là où aucun homme, là où personne n'est jamais allé visiblement. C'était une devise. On lui souhaite tout le bonheur possible.
Merci Zoé, j'imagine qu'on peut retrouver tout ça pendant 1000 jours, c'est ça ?
Alors on peut le réécouter pendant un an, on peut le podcaster pendant un an et le réécouter pendant 1000 jours, je suis de plus en plus précise, sur le site de France Culture.
Est-ce qu'il y a des réactions à ce que l'on vient d'entendre de la part de nos deux invités, Clotilde Courau, Stanislas Nordet ? J'ai vu que vous étiez intéressé par les sons d'abord sur le Festival de Cannes, Emmanuel Berco qui reçoit son prix et Vincent Lindon.
Moi, les prix, ça m'a toujours... j'ai jamais trouvé ça très passionnant.
C'est vrai ?
C'est-à-dire, quand je vois des gens extrêmement émus recevant des prix, je trouve ça... J'ai toujours trouvé ça très, très... dérisoire, c'est pas ça représente pas grand chose, il me semble en général.
Ah bah,
en plus,
si un prix au Festival de Cannes, ça représente quelque chose.
On distingue une personne au milieu d'une œuvre qui est une œuvre complètement collective, qui n'appartient à personne. Donc moi, j'ai toujours été très très rétif à ça, parce que tout d'un coup, on a beau multiplier les remerciements, je veux dire, un film, c'est tellement de gens qui le construisent et pas simplement une personne, etc. Donc moi, je suis toujours un tout petit peu sur la défensive quand je vois ces gens extrêmement émus. Je suis content pour eux, mais voilà, je trouve ça un peu
pas plus que ça. D'accord.
Plus que ça.
Clotilde Courau ?
Moi, j'ai travaillé avec Vincent Lindon dans Fred, de Pierre Jolivet. Depuis à peu près ce film-là, il a quand même pris une trajectoire et il a vraiment été assez radical dans ses choix. Et aujourd'hui, il est récompensé dans cette vision qu'il a aussi de porter l'art lié à son humanisme profond. Donc cette récompense, moi je la trouve extrêmement touchante. Mais c'est vrai, Stanislas a raison, mais il l'a reconnu parce que le visage de Stéphane Brisset était absolument bouleversant, parce que voilà, Stéphane a trouvé écho à son propre combat au travers de l'acteur et de la personne qu'est Vincent Lindon. Donc oui. Et puis ce discours aussi, ce film que j'ai vu, et ce discours sur remettre à l'honneur tous ces gens qui sont en ce moment dans des combats bien difficiles dans notre société. Je trouve ça juste et beau. Merci à Vincent.
Le rendez-vous, Laurent Gomard.
Un jour, on s'en sortira. Son talent sera reconnu.
Plateau Ombre et Lumière avec vous, Clotilde Courau, comédienne. On vous avait découverte au cinéma dans Le Petit Criminel de Jacques Doyon en 90, puis sous la direction de Jean Becker, Philippe Claudel, Pierre Jolivet, Bertrand Tavernier. Vous serez mercredi prochain à l'affiche du nouveau film de Philippe Garrel, L'Ombre des Femmes, qui a fait l'ouverture de la quinzaine des réalisateurs à Cannes. L'histoire, c'est celle d'un couple, Manon, c'est vous, et Pierre, deux documentaristes qui vivent avec peu de moyens. On les voit au début du film en préparation d'un documentaire sur un résistant. Le couple fonctionne jusqu'au jour où Pierre rencontre une jeune stagiaire, Elisabeth, et que vous aussi, vous prenez un amant qui lui n'a pas de nom, c'est l'amant de Manon. Thomas Beau, notre réalisateur, a recentré sa bande-annonce sur votre personnage. Montage.
Là, j'ai un petit boulot qui me rapporte un peu d'argent, puis qui surtout me laisse le temps de me consacrer au film de Pierre.
Quand tu as rencontré Pierre, tu avais un chemin. Tu m'as interrompu, je trouve ça dommage. Aucun homme ne mérite qu'on se sacrifie pour lui.
Mais je ne sacrifie pas. C'est mon choix.
Bon.
Bah oui. Travailler avec l'homme que tu aimes, qu'est-ce que tu veux de mieux ? Partager des projets ensemble. Il est là, notre amour.
Je suis rentrée dans un territoire inconnu. Je m'y perds.
Tu ne me traites pas de pute, alors ?
Je sais pas où elle est.
Comment tu peux être aussi malhonnête ?
Et j'ai peur par moments. Tu me fais perdre.
pas, mais je te déteste. Mais c'est toi que je veux. C'est de toi que je voudrais me sentir aimée.
Personne ne peut t'aimer comme moi.
Alors pourquoi tu me le donnes pas, ton amour? Pourquoi je le sens pas? Hein? Parce que s'il existe, je sais pas où tu le caches.
Le cache ailleurs. Philippe Garrel, côté de Kourou, raconte que le sujet de son film, c'est, je le cite, la libido féminine, qui est aussi puissante que la libido masculine. Et il ajoute que son film joue sur l'égalité de l'homme et de la femme, ce qui signifie qu'il fallait énormément soutenir le personnage féminin et aller contre l'homme. Comment ça s'est traduit dans sa direction d'acteur? Est-ce qu'il a une façon différente de travailler avec vous et avec Stanislas Mérard?
Non, exactement la même. On a travaillé ensemble, puisque c'était une des conditions de travailler avec Philippe Garrel, c'est-à-dire de répéter à peu près 13 semaines, se voir une fois par semaine. Et ce scénario qui a été écrit donc
par Jean-Claude Carrière,
oui, par quatre mains, Arlette Langman,
deux femmes, deux hommes,
ouais. Exactement, qui était donc notre partition. Nous l'avons étudié régulièrement, en s'interrogeant, lui en s'interrogeant, nous interrogeant aussi sur le sujet.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire en étant très ouvert. L'interrogation était ouverte, c'est-à-dire que son travail, en fait, c'est une manière, c'est vraiment le sentiment qui guide l'action. Donc n'importe quelle situation dans ce texte-là, dans ce manuscrit-là, c'était à un moment donné de trouver exactement l'essence du cœur pour aller vers l'action. Et des choses aussi peu banales qui pouvaient être « passe-moi les clés ». Mais il n'y avait aucune différence entre Stanislas et moi-même.
Benoît Hagen.
Pour autant, Philippe Garrel dit que si on met le personnage féminin à égalité avec le personnage masculin, le cinéma tendrait, dit-il, à renforcer la position de l'homme. Vous êtes d'accord avec ça?
C'est vraiment son problème à Philippe Garrel, de toute façon.
Vous pouvez me reposer la question?
Oui, on va vous la reposer.
Voilà, il dit que si on met le personnage féminin à égalité avec le personnage masculin au cinéma, voilà, le cinéma tendrait, dit-il, à renforcer toutefois la position de l'homme, qui donc il faut aller encore plus loin pour surélever en fait le personnage féminin.
C'est ce qu'il dit dans un entretien.
Vous êtes d'accord avec ça ou vous l'avez pas perçu du tout comme ça?
Moi, j'ai vraiment perçu une égalité, en tout cas dans le travail de Philippe Garrel et du regard qu'il posait sur moi ou sur Stanislas. Vraiment. Donc, il y a un moment donné, effectivement, la force du film, c'est qu'effectivement, cette femme est tout à fait lumineuse, mais cette femme ne peut pas exister dans son courage s'il n'y avait pas cet homme en face d'elle. Donc, ça ne peut pas, ce n'est pas, c'est l'égalité aussi de ces forces-là qui se retrouvent, qui en font une œuvre incroyable.
Philippe Garrel a la réputation de ne garder et de tourner que la première prise. C'est une méthode d'ailleurs contre laquelle son fils s'est toujours battu, hein, quand on l'avait reçu ici, il nous en avait parlé. Oui. Ça a été aussi le cas pour ce film?
Oui, oui, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de répétitions. Donc ces répétitions se travaillent en amont. Mm-hmm. Après, nous arrivons sur le tournage. Il nous enferme, on se met à trois ou à quatre et on répète encore une fois, puis la technique arrive, il montre son plan et son cadre, puisqu'il monte en fait son film. Donc il pose sa caméra, mais il sait exactement pourquoi il la pose à ce moment-là, puisqu'il n'y a qu'une prise unique. Nous répétons et nous nous mettons tous dans une... je ne dirais pas tension, je dirais effervescence. Donc nous allons tous ensemble dans cette concentration pour cette prise unique. Et ça donne une certaine magie. Moi qui ai travaillé avec Jacques Doyon, qui est à l'opposé, c'est-à-dire, nous n'avons pas ce temps de répétition, mais une fois sur le tournage, nous arrivons parfois à 40, voire 60 prises. Mais ces 40, 60 prises, c'est pour arriver à cette même magie de la prise unique. Parce que Philippe a raison, il dit qu'un comédien inconsciemment, si la première prise est entre guillemets raté, il aura tendance inconsciemment à vouloir reproduire cette magie de la première fois. Voilà.
Vous comprenez cela, vous, qui êtes homme de théâtre, Stanislas Nordet, mais qui avait aussi une petite expérience au cinéma avec Kieslowski, notamment, Francis Huster d'ailleurs aussi.
Disons que ce que j'aime au théâtre, c'est ce risque-là. Donc j'imagine que sur cette première prise, il y a la même chose. C'est-à-dire, c'est le fait que c'est le danger, en fait. Voilà, je crois que ce qui m'a toujours ému, c'est ça, c'est la peur, le danger, le fait que quand le public est là, on peut pas revenir en arrière. Je suis toujours aussi terrifié, d'ailleurs, après des années d'entrer sur une scène de théâtre. Et je pense que sur cette question d'une prise, il y a quelque chose de cet ordre-là, de l'essence et de la nécessité. Et d'aller au plus évident.
Pour préparer un rôle, est-ce que Philippe Garrel vous demande de regarder des films, de lire des livres? Comment vous vous préparez?
Non, il ne demande rien.
Et vous, comment vous faites?
Moi, je me nourris de tout ce qui peut exister à ce moment-là dans ma vie. Ça va de la peinture au livre, effectivement au film aussi de Philippe. Son univers.
Vous avez regardé d'autres films de lui?
Oui, énormément, surtout à ses débuts en fait. J'ai redécouvert les films qu'il a fait avec Nico, avec Jeanne Seberg, sa liberté profonde, sa poésie, son onérisme. Vraiment, j'ai découvert ça chez cet homme-là et je l'ai aimé et j'avais besoin d'être dans cette admiration parce que travailler avec un metteur en scène, ce qui est intéressant, c'est d'être à son service et de Et c'est comme une déclaration d'amour, c'est-à-dire il vous regarde avec amour puisqu'il vous offre un personnage et vous avez tellement envie d'interpréter ce personnage parce que vous en comprenez l'essence et que vous avez envie d'être aussi dans cet amour fou que vous lui vouez. Et ça, c'est grâce à son œuvre. Il n'a pas dérogé à ses règles depuis le départ.
Et notamment sur ses portraits de femmes. Avant L'ombre des femmes, Philippe Garrel avait tourné La jalousie avec Anna Mouglalis, qui nous avait confié ici qu'il avait eu d'abord des réserves et qu'elle le comprenait au vu de son image qui avait été liée pendant 10 ans à Chanel. Et pour L'ombre des femmes, il vous choisit vous, alors même que votre image a aussi un temps été un petit peu brouillée par votre statut de princesse de Savoie. C'est comme s'il y avait vraiment chez lui un souci de contrer l'image que les autres ont des actrices avec lesquelles il va travailler. Et il dit de façon un peu énigmatique qu'un film ne tombe jamais par hasard dans son jardin. À quel moment de votre parcours arrive ce film pour vous, Clotilde Courau? Et qu'est-ce qu'il dit de vous, surtout qu'il vous présente dans le film en cinéaste, en documentariste?
Il arrive à un moment où j'ai passé beaucoup de temps seule, ce qui m'a permis de faire un bilan, de voir ce qu'était l'essence de ma passion, de ce que je suis fondamentalement. Je me suis énormément nourrie aussi des autres en allant les voir au théâtre, en découvrant des auteurs, des cinéastes. Et il me permet de revenir dans la lumière. Et c'est un immense cadeau. Et je pense qu'il m'a... C'est marrant parce que quand on s'est rencontrés, moi j'ai pas eu le sentiment d'avoir un homme qui se posait une question sur mon image. Pas du tout. Il me rencontrait, il me donnait la chance de justement me rencontrer moi. Et c'était formidable parce que j'ai eu l'impression d'avoir un regard neutre qui se posait sur moi. Et je pouvais à ce moment-là lui offrir moi ce que j'étais totalement dans la vie. J'ai construit mon spectacle, Piaf, l'être intime. Je me suis baladée au travers des auteurs. J'ai eu quelques expériences aussi avec... Xavier Duringer dans La Source.
Ouais.
J'ai eu quelques expériences diverses aussi avec. J'ai joué dans Platane, enfin dans plein d'univers différents.
Derek Judor, complètement différent. Ouais. Il y avait même un projet, je crois, avec Peter Greenaway. J'ai pu lire.
Oui, mais ça a été complètement avorté. Mais je me suis beaucoup baladée et je me suis beaucoup cherchée aussi. Et cette période qu'on peut dire difficile, je ne sais pas finalement, puisqu'elle m'a permis de savoir qui je suis fondamentalement, de pouvoir poser des mots et d'aller vers d'autres univers et de définir le mien petit à petit.
Benoît.
Philippe Garrel dit qu'il a su vraiment que c'était le couple avec Stanislas Mérard qui fonctionnerait dans son film lors des essais, dans un café, c'est ça, il vous photographiait
avec plein de monde.
Non, mais c'est ça qui est formidable, c'est quand on rencontre, on a la chance de rencontrer un artisan, un poète, quelqu'un encore de libre, qui fait du cinéma dans une économie qui est la sienne et qui lui convient. et parce qu'il tient cette liberté-là. Donc on travaille totalement différemment. Donc quelqu'un qui vous dit, voilà, je lis le scénario, on se retrouvera, j'ai besoin de savoir si ça colle avec ton partenaire, et pour ça j'ai une certaine méthode, je vais prendre des Polaroïdes. Et
des Polaroïdes.
Des Polaroïdes. Et déjà, de vivre l'expérience de me retrouver à 19h dans un café, donc avec Stanislas, on lit L'ombre des femmes, que vous pouvez découvrir, qui est une œuvre quand même particulière.
Bah, un vrai scénario, ouais.
Et on se retrouve dans cette salle de café. Et Monsieur Garrel, Philippe Garrel, avec le physique qu'il a, qui est absolument divin et magnifique, prend des Polaroïdes. Rien que ça, je trouve ça tellement magique de pouvoir vivre ce métier encore de cette façon-là. Tellement de fois, on peut se retrouver à faire un film sans même rencontrer ses partenaires, sans même travailler ensemble, sans même découvrir de quoi fondamentalement est fait nos personnages. C'est extraordinaire. C'est comme si on mettait un manteau, puis petit à petit, on se demandait si la manche n'était pas un peu trop haute sur l'épaule et s'il fallait parvenir un petit peu plus et découdre et revenir. Et c'est sincèrement extraordinaire.
Stanislas Landais, vous connaissez un petit peu le cinéma de Philippe Garrel ?
Oui, je connais très bien. Je pense qu'un des premiers films dits d'auteur pour les grands que j'ai été voir au cinéma, c'était Liberté la nuit, avec Maurice Garrel et Christine Boisson.
Exactement. Si
qui était voilà une première aventure, vous savez, vous êtes ado et puis vous allez voir un film sérieux, etc. Et puis c'était celui-là, donc après j'ai plus vraiment décroché. Non.
Alors quand on parle du cinéma de Philippe Garrel, il faut aussi parler de la lumière qui est chez lui, un noir et blanc qui est signé cette fois Renato Berta, immense chef opérateur. Mmh. Je me demandais quelle relation vous avez avec les chefs opérateurs quand vous tournez. Est-ce que vous faites très attention à cela? Comment vous avez tourné avec Renato Berta?
J'ai eu la chance, moi, de faire partie d'un jury de la Caméra d'Or avec Renato Berta.
Donc c'était en terrain conquis.
Nous avions passé 2 semaines ensemble à voir 36 films. Donc nous avons été tout de suite... je sais pas, il y a une grande amitié qui est née entre nous. Et là, le plaisir de se retrouver ensemble sur une œuvre de Garrel.
Est-ce qu'il a une façon particulière, justement, de filmer et de travailler la lumière sur vous ?
Sur moi ?
Dans le film.
Sur les femmes, c'est vrai que Renato est quelqu'un qui fait très attention aux femmes.
Hein ?
Donc il a ce plaisir à photographier les femmes. Qu'est-ce que je peux dire de...
Est-ce que dans votre parcours de comédienne, vous avez rencontré des chefs opérateurs comme Renato Berta ou d'autres qui vous ont particulièrement marqué dans la façon qu'ils avaient de travailler? Je vous dis ça parce qu'on avait reçu ici Charlotte Rampling qui nous disait qu'avant, elle avait tourné en Italie et que ça avait été vraiment formidable, qu'elle n'avait jamais été aussi sublime au cinéma et que quand elle est arrivée en France, ça a été la déconvenue la plus totale. Enfin, ensuite, elle a véritablement travaillé à savoir quel était le nom des chefs opérateurs avec qui elle allait pouvoir être filmée. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que vous faites très attention? Est-ce qu'il y a eu des collaborations
qui
vous ont marqué?
J'aurais tendance à dire, comme Stanislas, qu'il y a un chef d'orchestre,
ouais,
qui est le metteur en scène, que ce metteur en scène, c'est son film, et qu'à partir du moment où je dis oui à un metteur en scène, son œuvre et son univers, c'est lui le chef d'orchestre, et c'est à lui à qui je remets toute ma confiance. Donc vraiment, j'ai tendance à me soumettre ou à être derrière le metteur en scène et son écriture. Mais ça n'empêche pas que j'ai un plaisir fou à être aussi observatrice sur le tournage. J'aime autant l'ingénieur du son que le chef opérateur, que le cadreur, que les techniciens, que la costumière. J'aime être en famille, j'aime les observer, j'aime leur poser des questions, j'aime m'interroger, c'est-à-dire je peux m'asseoir pendant quelques temps, puis allez-vous trouver, par exemple, un technicien, lui dire, mais alors, Cazavetz, s'il avait eu en main la Steadicam, est-ce qu'il l'aurait utilisée, mais son œuvre serait-elle la même? Enfin, j'aime bien discuter avec tous ces techniciens.
Comme à tous nos invités, Clotilde Cour, on vous a demandé de nous apporter un son qui vous a marqué. Et voici ce que vous avez choisi.
L'importance capitale des valeurs affectives dans le rapport avec les valeurs intellectuelles, la nécessité d'assurer la survie de nos valeurs permanentes, qui sont très fortement marquées par le sentiment, qu'on appelle aujourd'hui sentimentalisme.
Oui.
Autrement dit, à l'heure actuelle, tout livre qui parle vraiment d'amour est relégué au répertoire de bas étage que l'on qualifiait autrefois de roman de délit. Ce n'est pas du tout par mépris pour délit, mais enfin c'était ça la classification. Or, pour moi, dans l'époque que nous vivons, où les idées se traduisent par des millions de morts, les idéologies, quelles qu'elles soient, valables ou pas valables, signifient avant tout martyr, torture, extermination et sacrifice, il est peut-être temps de teinter ces idées d'une très bonne dose, très forte dose d'affectivité, qui était très fortement recommandée par ce qu'on appelait autrefois l'humanisme, qui a été combattu au nom de l'intellect, et sans lesquels les idées deviennent des espèces de zombies qui se retournent contre les hommes. Donc c'est pour cela que toute mon œuvre, de plus en plus, est attachée, dans la mesure où dans les romans on puisse prôner quelque chose ou prêcher quelque chose, ce que je ne fais jamais directement, est une défense des valeurs affectives permanentes.
Qui en entend, Clotilde de Courau, et la raison de ce choix?
Romain Gary. La raison de ce choix, je pense qu'aujourd'hui, on la comprend tous en chacun de nous. Pourquoi Romain Gary? Parce que c'est quelqu'un qui est dans l'errance, qui est dans une lucidité, qui on peut écouter d'ailleurs en retrouver sur Lina, c'est ça?
Ouais, hein, c'est un extrait.
C'est un extrait et tout ce qu'il raconte est absolument incroyable de modernité, d'intelligence et de lucidité, et c'est encore totalement actuel aujourd'hui. Il parle à un moment donné plus tard de la notion de spiritualité aussi. Et c'est vrai que j'ai eu la chance de rencontrer Abdennour Bidar sur une lecture que j'ai faite à Tunis, qui a un livre qui s'appelle « Le plaidoyer de la fraternité ». Et tout à l'heure, j'entendais parler de ce qui se passe encore dans ces pays et de ce qui se passe tout simplement sur notre terre aujourd'hui. Et c'est vrai que la notion de fraternité, il faudrait qu'on se pose tous la question aujourd'hui pour pouvoir vivre ensemble et ne pas perdre notre mémoire. Parce qu'on parlait tout à l'heure, j'ai eu un mot qui a été dit, mais on n'a pas dit le mot « mémoire ». C'est notre mémoire à tous, collective, notre humanisme qui est fondamentalement en danger et que j'ai en... Et voilà, il est important aujourd'hui de se poser la question comment nous allons tous vivre ensemble demain. Voilà, tout simplement.
Le rendez-vous.
Non ! Je veux me faire haïr, mais pas comme on est un père.
Plateau Oedipe inversé, théâtre engagé avec vous, Stanislas Nordet, comédien et metteur en scène. Vous êtes en ce moment père dans Affabulazione de Pier Paolo Pasolini, que vous mettez en scène au Théâtre de la Colline à Paris. Un père patron d'usine milanais, athée, et qui, à la suite d'un rêve, se retrouve atteint d'un mal mystérieux, une sorte de délire mystique. Il se met à prier, à avoir des hallucinations et surtout à désirer son fils comme un complexe d'Oedipe inversé. On vous écoute.
Je suis ici, arbitrairement destiné à inaugurer un langage trop difficile et trop facile.
Je croyais, quelque chose a failli me rappeler le rêve, s'il s'agit du rêve. Mais je vais mieux, ne t'inquiète pas, je vais mieux.
Alors si c'est comme ça, si c'est vraiment comme ça, je te laisse seule à tes monologues.
Oui! Voilà! Oui! Ah! Au secours! Ah! Oui! J'ai compris! C'est dans mon fils que mon rêve se poursuit! Oui! Mais à quoi ai-je rêvé? Je dois m'en souvenir, mon Dieu, pour me révéler! Pour révéler quelque chose de joyeux ou épouvantable! Toi, de toute façon, advenir!
Salut,
assieds-toi, maman.
À vrai dire, je dois partir.
Ah, bien sûr.
J'adore ce « ah » chaque fois qu'il vient ponctuer le texte. Il y en a beaucoup. Ouais. Chaque fois, vous les ponctuez. Cinquième fois que vous travaillez un texte de Pasolini. Ça commence en 92 avec « Bête de style », Calderon l'année d'après, Pilade en 94, Porcherie en 99. Et je lisais dans un entretien que c'est avec lui que vous découvrez votre nécessité de faire du théâtre. C'est-à-dire
C'est-à-dire que... Quand j'ai commencé à faire du théâtre, je faisais du théâtre pour moi, pour ma gueule, pour être acteur. Je savais pas pourquoi je faisais du théâtre finalement. Quand j'ai croisé la route de Pasolini, je me suis dit que je pouvais faire du théâtre pour faire entendre des choses, pour porter des choses. Donc le déclic, il s'est vraiment posé à cet endroit-là. Et pas seulement faire entendre des choses, on va dire politiques, mais poétiques aussi. C'est-à-dire que la rencontre avec l'écriture de Pasolini a été une forme de révélateur pour moi sur pourquoi continuer à faire du théâtre est quelque chose qui me porte encore aujourd'hui, parce que ça m'a ouvert une porte sur ma propre nécessité d'être sur les planches de théâtre, ou en tout cas de faire qu'il se passe des choses sur les planches de théâtre.
Vous parlez actuellement, des fois on regrette de ne pas être à la télévision, parce que vous parlez comme vous êtes au théâtre, c'est-à-dire que chaque mot, vous l'avez regardé hein, je crois, Claudine Lecouraux, chaque mot est ponctué par un geste en fait. Et c'est la façon que vous avez d'être sur scène. Est-ce qu'on vous a dit d'ailleurs quelque chose sur ce jeu? Parce que c'est un jeu par exemple que j'avais déjà repéré depuis longtemps, mais notamment dans Clôture de l'amour de Pascal Rambert, dans Par les villages, c'est-à-dire un geste, un mot presque. C'est quelque chose que vous stylisez depuis des années?
Alors, c'est une longue histoire. Hein. Ça vient de deux choses, on peut dire assez vite. Ça vient d'une certaine forme d'engagement dans la parole. C'est-à-dire, nous tous, dans la vie, quand on est très engagé, en colère, dans un moment de désespoir, tout ça, tout le corps, comme ça, et je suis quelqu'un voilà, qui porte ça sans cesse. Et puis, je crois que l'expérience que j'ai faite en travaillant avec des acteurs sourds au tout début de mon chemin, c'est-à-dire quand j'avais monté Vol mon dragon d'Hervé Guibert avec des acteurs sourds, et j'avais appris à signer, j'avais appris la langue des signes, et on avait vécu presque pendant un an, puisque j'avais dirigé toutes les répétitions en langue des signes, et je crois qu'il en est resté quelque chose, parce que tout d'un coup, cette leur façon d'être au monde, en passant d'abord par le geste, a pointé quelque chose très très fort dans ma façon aussi, je pense, d'être
sur scène. Vous comprenez aussi, j'ai pu lire dans ce même entretien que je citais tout à l'heure, qu'à travers Pasolini, vous comprenez qu'au théâtre, on travaille une énigme. Et c'est intéressant ce terme, parce que quand on écoute la pièce, ce terme énigme revient dans la bouche de l'ombre de Sophocle. Il vous dit que votre fils n'est pas une énigme, puisqu'on est dans le mythe d'Oedipe, mais un mystère. Comment vous comprenez la différence? Parce que le théâtre, pour vous, est une énigme, pourrait être tout aussi bien un mystère, ce n'est pas la même chose.
Alors, ce que dit l'ombre de Sophocle à ce personnage, il lui dit « Tu as l'habitude en tant que grand industriel, éventuellement grand intellectuel aussi, parce qu'aujourd'hui les industriels peuvent aussi être des collectionneurs d'art, etc. Et tout ça, tu as l'habitude de résoudre toute une série d'énigmes. Ça, tu sais faire, dit Sophocle à l'industriel. Par contre, dès que tu es face à un mystère, tu ne sais pas faire. Et ton fils est un mystère. » Pasolini joue avec ça évidemment, puisqu'il s'adresse en même temps au spectateur en lui disant « Toi spectateur, ne cherche pas à tout comprendre dans ce que tu vois, laisse-toi aller aussi au mystère. » Si le mystère c'est la poésie, c'est la poétique, c'est-à-dire Mallarmé, Rimbaud, ça ne s'explique pas, c'est de l'ordre du mystère, il n'y a rien à résoudre là-dedans. Donc c'est aussi une façon de Pasolini d'être au monde, d'être à la poésie et dans le rapport aux autres. Donc évidemment, la pièce tourne autour de ça, et puis d'Oedipe, de l'histoire d'Oedipe, puisque Sophocle dit aussi à cet industriel, Oedipe a réussi effectivement à résoudre l'énigme posée par le sphinx, mais il n'a jamais résolu le mystère qu'il y a derrière le sphinx, il a juste réussi à répondre à la question.
Émilie Chaudet.
Quand vous parlez de votre travail sur Affabulazione, vous parlez de votre âge, 48 ans, et vous dites que vous en êtes à un stade où vous vous sentiez prêt à jouer le rôle d'un père. Le père, c'est d'ailleurs une notion sur laquelle a beaucoup travaillé Pasolini. Qu'est-ce que ça dit, ça, de votre parcours ?
J'ai été pendant très longtemps j'ai commencé très tôt à faire du théâtre. On va dire, mon travail a été reconnu assez tôt. Donc, j'étais vite un jeune prodige, je sais pas comment on dit.
Avec trois pièces en même temps, hein. Il y avait le Pasolini, il y avait un Marivaux et puis.
Et un spectacle pour les enfants.
Et un spectacle pour les enfants.
Et donc, pendant très très longtemps, j'ai été cette espèce de jeune, je sais pas quoi, gendre idéal de l'institution. C'est ce truc horrible en même temps. Mais bon, pas désagréable non plus. Donc, pendant très longtemps, et de toute ma génération, j'étais en plus le plus jeune. On va dire les La Cascade, les Eric Vignet, tous les gens qui sont sortis. Et moi, j'étais le petit cadet. Et donc aujourd'hui, on commence à me regarder un petit peu autrement, et notamment les Thomas Joly, les Julien Gosselin, les Vincent Macken, etc. Je sens bien que je deviens un peu un vieux truc, quoi, en face.
Bon, bien sûr.
Relativement.
Tout est relatif.
Et voilà, donc effectivement, de me retrouver. C'était pas simple, même, parce que j'avais des tas de copains qui me disaient, mais tu pourrais presque encore jouer le fils, etc. Là, pourquoi est-ce que tu joues le père? Et non, je trouve que. Pour pour moi, c'était intéressant et j'y reconnaissais quelque chose aussi sur cet endroit de, parce que effectivement, avec les années que j'ai au compteur, là, maintenant, dans l'art du théâtre, on va dire, et dans la transmission aussi, parce que j'ai toujours énormément transmis, j'ai enseigné, j'enseigne toujours, donc cette position de père, on va dire, en jouant dans la Fabulation, on va dire que je l'assume un peu plus.
Vous jouez à 48 ans donc une pièce qui avait été écrite à peu près au même âge hein, pour Pasolini. Est-ce que vous vous êtes renseigné sur son père à lui qui était militaire, fasciste ?
Ben oui, oui. Le père de Pasolini, c'est quelque chose. Hein. C'est parce qu'il y a à la fois dans sa prime enfance, il identifie un moment où il est fasciné par le dessous du genou de quelqu'un, d'un homme qui est sans doute son père. Donc il y a une fascination presque amoureuse et en même temps un rejet extrêmement fort puisque son père était fasciste. Sa mère et lui-même Pasolini ont quitté le père, sont partis. Le père a sombré dans la folie ensuite. Et Pasolini a, on va dire, mis le père de côté. La mère était au centre de tout. Jamais oublié dans la biographie de Pasolini que Pasolini, quand il met en scène l'évangile selon saint Matthieu au cinéma, il fait jouer la mère du Christ par sa propre mère. Donc il y a ce rapport-là.
Vous faites exactement la même chose en mettant votre mère au centre du spectacle. Vous avez mis votre père de côté aussi pendant des années. C'est-à-dire, on a l'impression qu'on est dans l'ordre de l'autofiction quand on regarde je sais même pas.
Affabulation. Bah, je pense que, heureusement, à chaque fois qu'on choisit un texte, quand on est metteur en scène, ou on choisit plus un texte quand on est metteur en scène qu'acteur, souvent on est choisi quand on est acteur, on choisit des textes qui vous ressemblent. Moi, j'ai toujours dit que si tout d'un coup, là, vous me demandiez, tiens, qu'est-ce que c'est le point commun entre toutes les pièces que vous avez montées, je rougirais parce que ça raconterait ma vie entière, évidemment. On va chercher des choses qui vous ressemblent d'une manière ou d'une autre et qui vous prolongent, qui vous permettent de prolonger quelque chose de votre propre recherche personnelle.
Qui aurait été votre père de théâtre ? Vous qui avez longtemps été un fils, manifestement, au théâtre. Jean-Pierre Vincent ?
J'en ai jamais cherché volontairement des pères de théâtre, mais on peut dire que Jean-Pierre aura été mon oncle, on va dire. Allez, Jean-Pierre Vincent, mon oncle de théâtre. Non, j'ai jamais cherché de père parce que artistiquement, je trouve qu'il est toujours dangereux de s'identifier à une figure. Ça permet, parce que ça enferme souvent. Et moi, j'enseigne beaucoup et tous les jeunes gens à qui j'enseigne, je leur dis, soyez jamais dans la fascination. Et tout ça, je leur dis toujours, moi, mon théâtre, il est déjà mort. Il faut que vous vous serviez de mes outils peut-être, mais que vous ne cherchiez surtout pas à me copier ou par admiration. Il faut toujours, moi je trouve qu'il faut se méfier des pères en art en tout cas.
Claude Gouraud, vous citez Jérôme Savary comme père spirituel.
Oui, mais là on parle d'un metteur en scène qui enseigne et à qui on demande quel est son père. Mmh. Et là, quand je dis Jérôme Savary, vous parlez d'une interprète qui a un père qui la porte. Comme Philippe Garrel, je reviens tout à l'heure à ce que je disais, quand je me mets en tant qu'interprète face au metteur en scène, je suis une fille, disons, en tout cas, moi, je les considère comme des pères. Et c'est vrai que quand je suis avec Philippe Garrel sur cette prise unique, je me sers, Philippe Garrel est quelqu'un de qui n'aime pas qu'on le touche ou qu'on le tienne, qui est très froid, mais j'ai besoin de, je sais pas, c'est très particulier, mais si je pouvais, je l'aurais prise dans mes bras pour aller vers mon partenaire. C'était quelque chose de... Voilà. Mais je comprends. C'est sûr que quand on est metteur en scène, on a besoin de tuer son père. On n'a pas... Voilà. Il faut avoir des références, mais pas des pères.
J'ai toujours cherché des frères pour rebondir.
Ah, ça, vous en avez.
Pascal Rambert. Moi, Watt, Falk Richter, pour moi, c'est des frères de théâtre. Et ça, c'est très, très important.
Moi, je cherche maintenant des frères et des sœurs.
Ouais, mais je comprends très bien. C'est-à-dire que tout d'un coup, à cet endroit-là, il me semble qu'il y a à la fois une forme de joie, d'émulation, de chercher les choses ensemble. Ouais, j'ai toujours plus cherché les frères et sœurs que...
Eh bien, en parlant de frères, justement, parce que vous allez jouer dans quelques jours, vous allez reprendre Clôture de l'amour dans le festival Pascal Rambert au Bouffe du Nord. Vous jouez Stan dans la pièce. Il y a quelques temps, vous jouez Stan dans une autre pièce de lui. Répétition, j'imagine que le théâtre de Pascal Rambert...
Sublime. Moi, répétition, ça a été... j'étais là et je me suis dit... Ah, merveilleux, le théâtre, enfin
peut faire ça.
A tout son sens. Je l'ai prise dans mon cœur. J'ai aimé ce texte, j'ai aimé la force de l'interprétation. Vraiment, c'était une révolution.
Deux fois Stan par Pascal Rambert, votre frère, on va dire. Qu'est-ce qu'il raconte de vous,
Pascal Rambert ?
Pas grand-chose. C'est ce que j'aime. Non, c'est ce que j'aime, c'est que Pascal ne parle que de lui. Enfin, de lui.
Ça, c'est vrai.
Je dis ça de manière très affectueuse.
Pour autant, il s'appuie quand même sur ses acteurs et
oui,
sur ce qu'ils sont.
Oui, mais il s'appuie beaucoup plus sur... c'est-à-dire, quand il écrit Clôture de l'amour pour Audrey Bonnet et pour moi, il s'inspire pas du tout de nos vies, de nos biographies. Par contre, il s'inspire énormément de nos souffles, de nos voix,
de
nos corps.
Vraiment.
C'est-à-dire que il écrit à partir des acteurs que nous sommes, mais il écrit pas du tout à partir de nos vies, on va dire. Et ça, c'est très particulier et très beau, je dirais. Il va projeter des choses, évidemment, mais en même temps, à l'inverse, par exemple, d'un Falk Richter, qui lui, a besoin énormément d'écrire à partir des biographies des acteurs.
Vous-même, côté de Corot, dans votre parcours, vous avez rencontré un metteur en scène ou un cinéaste qui a plutôt travaillé à partir de votre vie, qui vous a posé pas mal de questions sur vous pour pouvoir construire vos personnages ?
Non, pas encore.
Dit-elle avec un petit sourire.
En faisant une grimace.
En faisant une grimace.
C'est vrai. Ouais, parce que je...
Pas très attiré par ça.
Par l'idée, non, je suis un caméléon, c'est peut-être aussi pour ça que j'aime beaucoup Romain Gary.
Pour cette raison-là, mais je peux imaginer. Émilie Chaudet.
Alors, on a parlé de père, de frère, on va parler de la mère. Maintenant, il y a un personnage central dans votre pièce, une sorte d'oracle en robe à strass qui arrive sur une chanson de Patty Pravo. C'est la nécromancienne qui regarde dans une boule de cristal invisible pour aider le père à retrouver son fils. On en écoute un extrait.
Vous êtes venu ici que pour savoir où est votre fils.
Oui.
Vraiment.
Du moins, je crois.
S'il vous plaît, donnez-moi une photo de lui.
La voici.
C'est un beau jeune homme, des cheveux si clairs. À moins que ce ne soit le contre-jour.
Non, il est vraiment blond.
C'est un blond très particulier, on dirait... Le blond un peu sali par la suie des ouvriers qui travaillent dans les ports. Les cheveux lui font comme une vague sur le front, sombre vers le bas, lumineuse en haut, tout. Innocence, comme un enfant désordonné, fier.
Sa mère est napolitaine.
Mais d'une famille riche.
Oui, très riche. Bien que leur maison ait toujours pué un peu.
Mais ce blond... Peut-être leurs ancêtres venaient-ils de France.
Alors c'est votre mère que l'on entend là, Véronique Nordet, qui a aussi été votre première professeure de théâtre, la première qui vous a formée, qui vous a suivie, qui a fait partie de votre troupe. Comment vous travaillez avec elle, elle qui vous a formée ? Est-ce que vous la dirigez ?
Oui. Comment ? On s'engueule beaucoup surtout. Hein. Vous savez, c'est pas simple. C'est très joyeux et en même temps.
Sur quoi portent les dissensions ? C'est pas la première fois. Hein.
Souvent sur. Elle me reproche d'être. C'est marrant ce que disait Clotilde tout à l'heure, d'être trop froid. C'est-à-dire que pendant des années, je lui disais, je veux que l'émotion soit là, mais je ne veux pas qu'elle se voie, etc. Et elle me disait, c'est pas possible, tu connais pas assez bien l'acteur, il faut que l'émotion déborde, il faut qu'elle arrive à déborder. Donc à cet endroit-là, par exemple, il y avait pas mal de dissensions, mais en même temps, si on travaille ensemble, c'est qu'on s'entend.
Bien sûr, ouais.
Je dirais que mais les familles de théâtre ou les familles de cinéma, je veux dire, c'est quelque chose de naturel. Souvent,
c'est
depuis la nuit des temps, quoi. Que ça, dans le cirque, les familles de cirque, ça, voilà, les bouillonnes, etc. Pour moi, ça a toujours été assez simple et assez naturel de travailler avec elles. Sur Par les villages, il y avait ma mère sur le plateau, il y avait mon neveu aussi. C'est-à-dire, je trouve que c'est beau cette question-là aussi. Et c'est vrai que ma mère m'a formé en tant que comédien. Elle m'a donné tous les outils importants. Ensuite, elle m'a chassé, elle m'a dit va voir ailleurs, va voir d'autres gens qui t'apprendront d'autres choses. Et puis après, aujourd'hui, le fait de la diriger, de la faire travailler en tant qu'actrice, c'est un immense bonheur parce que voilà, ça crée un chemin de vie aussi. Voilà.
C'est une des seules, hein, je crois, qui a un micro, ce qui crée presque une sorte d'écho dans sa voix qui est assez beau. Elle est à la fois là, mais elle est presque pas là. Enfin, c'est assez beau.
Mais c'est j'envie ces familles-là. Parce que Garel, c'est une famille.
Et Louis Garel, d'ailleurs, fait la voix off dans le film.
Oui, mais c'est une famille, on voit bien. Ça, ils se transmettent, ils voyagent ensemble, ils travaillent ensemble. Et quand on est toute seule et qu'on cherche sa famille, ça prend du temps. Et on est obligé de toquer régulièrement aux portes en espérant ne plus être orpheline et constituer sa famille.
Mais il y a plein de familles d'accueil.
Oui, et puis peut-être que mes enfants deviendront... je constituerai une famille.
Stanislas Nordet, voici le son que vous avez choisi.
Archive ! Я сейчас, сейчас я!
Скорее, скорее, едим!
Du cinéma.
Bah ouais.
Nordet.
Bah ouais.
Quel cinéma? Qu'est-ce qu'on entend?
Je pense que c'est Andrei Rublev, ouais. De Tarkovsky, c'est ça. J'ai choisi ça parce que je trouvais que c'était intéressant de voir les choses qui parfois vous orientent, je pense, dans une vie. J'ai vu ce film à la télé, je parlais tout à l'heure de Liberté, la nuit de Garel, j'ai dû voir ça, j'avais 7-8 ans. J'ai vu ça, j'étais tout seul à la maison, je sais plus pourquoi mes parents étaient allés faire un truc, et je suis resté fasciné devant ce film. Après, je l'ai dit à mes parents quand on revenait pas. Et je crois que de voir ça jeune, de voir des choses exigeantes comme ça, belles, d'une beauté foudroyante, ça construit quelque chose ensuite dans un rapport à la vie. En tout cas, j'en suis persuadé. Et donc, ça a été une chose très très importante, ce film, quand je l'ai vu. J'en ai un souvenir très fort d'enfance, comme on peut avoir le souvenir de Bambi, je pense. Ça, c'était un souvenir de... Voilà. Et puis beaucoup plus tard, c'est pour boucler la boucle, la première fois que j'ai rencontré Anatoly Vassiliev, qui est quelqu'un qui compte beaucoup pour moi, qui est un grand metteur en scène et pédagogue de théâtre, j'ai retrouvé dans le visage, dans le corps d'Anatoly, Andrei Rublev, dont il y a une boucle comme ça qui s'est bouclée. Je dirais que rencontrer très tôt les œuvres d'art, plus généralement, quoi, je vois à quel point ça peut faire bouger une vie sur le... la manière dont on choisit de faire les choses aussi. J'aime cette phrase de Julian Beck, qui a fondé le Living Theatre, qui dit « Pourquoi est-ce que je fais des spectacles difficiles alors que j'aime tant faire plaisir aux gens ?» Et ce rapport de l'exigence artistique et en même temps du don, voilà, chez Tarkovsky, il m'a toujours semblé qu'il y avait ça. Et puis, ironie du sort, bientôt, je vais jouer Tarkovsky dans un spectacle.
C'est là que le boucle est bouclé.
Encore plus, voilà. Ce que dit l'ombre de Sophocle à ce personnage, il lui dit...
Je vais prendre des polaroïdes.
Merci à nos invités. Clotilde Courau, L'ombre des femmes sortira en salle mercredi prochain. Je signale qu'on pourra vous retrouver dans une lecture de texte de Mona Ozouf dans Les voix de femmes au Théâtre de l'Odéon à Paris. Une émission qui sera enregistrée le 15 juin et diffusée le dimanche 21 dans Théâtre et Compagnie sur France Culture. Stanislas Nordet, Affabulazione, c'est au Théâtre de la Colline à Paris jusqu'au 6 juin. Et vous serez Stan au Théâtre des Bouffes du Nord du 12 au 16 juin dans Clôture de l'amour de Pascal Rambert. Ça, c'était pour aujourd'hui. Demain... Pas sûr de venir demain. Enfin si, demain une émission Voyage, manifestement, avec Lionel Trouillot, ben je comprends pourquoi, et Jorge Volpi. La désannonce, Elsa.
C'était le rendez-vous de Laurent Goumard, une émission préparée par Benoît Lagan, Émilie Chaudet, Aïssatou Endoy, Elsa Béranger, journal de la culture Zoé Sfez, à la prise de son Jean-Guilain Meige et Clément Daté, et à la réalisation Thomas Beau.
Il est 19h55, vous êtes sur France Culture, ben c'est bien.